Bonsoir, c'est les Apatrides Anonymes du 7 avril 2022 en direct tous les deux jeudis 18h30 sur choc.ca, soit en direct ou en balado, et aussi sur les ondes hertziennes en Colombie-Britannique sur Radio Victoria 107.9 FM. Les Apatrides Anonymes, c'est votre rendez-vous bimensuel sur le racisme, les grandes crises humanitaires, les droits humains, les mouvements migratoires, les frontières, les politiques sécuritaires, xénophobes, etc. Simon à l'animation aujourd'hui, avec des brèves tout au long de l'émission, de la bonne musique évidemment. Je suis en compagnie de Marie-Ève et Mathieu.
Hello!
Tourlou.
Bonjour Mathieu, on va commencer avec toi. Qu'est-ce que tu nous... en fait, un premier segment d'enjeux sur le racisme.
Oui, particulièrement les criminels, les dernières statistiques qui sont sorties.
Criminels Québec-Canada, je
crois. Québec-Canada, oui.
Et deuxième segment, un peu plus tard dans l'émission, actualité autochtone, en lien surtout avec la jeunesse autochtone.
Si la protection de la jeunesse, exactement.
Parfait. Marie-Ève, toi, deux segments européens.
Eh oui.
Faut pas être gêné. Une première partie des nouvelles plus générales, Europe de l'Ouest.
Oui, puis tout à l'heure, ça va être sur les passeurs.
Ouais, dans un petit instant, ouais. Dans la Manche, surtout.
Oui, France-Angleterre, surtout, ouais.
Super, donc on se retrouve pour... on commence l'émission Les Apatrides Anonymes dans un tout petit instant. Donc, Marie-Ève, avant de te céder le micro, petite mise à jour sur la situation ukrainienne. 43 jours maintenant de cette agression russe. Le temps passe vite. D'abord, les chiffres les plus récents sur les migrations. Donc, en début de semaine, on était rendu à 4,3 millions de réfugiés, c'est-à-dire 4,3 millions de personnes qui ont quitté le territoire ukrainien, du jamais vu depuis la Deuxième Guerre mondiale en Europe. 90% de ces 4,3 millions de réfugiés sont des femmes et enfants. On estime à 6,5 millions le nombre de déplacés internes. Donc, si c'est pas déjà fait, on devrait bientôt atteindre le nombre de 11 millions de déplacés en cumulant déplacés internes et réfugiés externes. Environ 60% des réfugiés externes sont aujourd'hui en Pologne. C'est des chiffres de début de semaine, c'est peut-être un peu plus, on ne sait pas. C'est 2,5 millions de personnes ukrainiennes en Pologne, 650 000 en Roumanie, 400 000 en Moldavie. Au Canada, on serait rendu entre 12 et 13 000. Beaucoup de débats endiablés aux communes sur les ratés et les délais dans le traitement des demandes, donc un grand classique fédéral. Il y a un spectacle bénéfice à la Sala Rossa demain, vendredi 8 avril à 19h30. Ça s'appelle « Musique pour l'Ukraine ». 16 artistes montréalais, ukrainiens, polonais, lituaniens et d'autres pays d'Europe de l'Est qui vont jouer plusieurs styles de musique, folklorique, classique, contemporain, pour recueillir des fonds pour l'aide humanitaire en Ukraine. C'est organisé par Norman Naraki. Il va co-animer avec la journaliste Natalia Fedosieva. Naraki, qui est un scratch violoniste, je pense que... en tout cas, c'est lui qui se décrit comme tel. Il est ukraino-polonais. Comme invité, il y aura vraiment plein de monde, entre autres de Backstreet, Klezmer Band, Bosonich, groupe de rock alternatif ukrainien, Dazok, qui est un quintet d'Europe de l'Est, Geneviève Ackermann, chanteuse ukrainienne, il y aura des pianistes, des violonistes, des chanteuses, etc., etc. Les bénéfices seront remis à un groupe d'aide qui est actuellement basé à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine, la fondation Fundacja Folkowisko. Donc, je rappelle, c'est demain à la Sala Rossa, musique pour l'Ukraine. Donc, voilà pour l'Ukraine. Pour le reste de l'émission, on va parler d'autres pays d'ici et d'ailleurs, parce qu'il se passe vraiment plein de choses. Marie-Ève, on reste en Europe?
Oui, on va dans le nord de la France, en fait, où les coups de filet se multiplient pour démanteler les réseaux de passeurs qui font traverser clandestinement des personnes migrantes entre le Royaume-Uni et la France. Mm-hmm. À la mi-mars, après une enquête qui va avoir duré quand même 8 mois, il y a 3 passeurs kurdes irakiens qui ont été reconnus coupables d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier d'un étranger en bande organisée, okay, et de mise en danger de la vie d'autrui. Deux de ces 3 hommes-là sont considérés comme 2 des têtes les plus importantes d'un vaste réseau ont été condamnés à 5 et 3 ans de prison. en plus de faire l'objet d'une interdiction définitive du territoire français.
Donc, c'est en France qu'ils ont été arrêtés.
Oui, c'est ça. Et le troisième a écopé, lui, de 3 mois ferme. Eux, en fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils acheminaient des bateaux et faisaient la navette entre les camps de migrants et les plages dans le nord de la France. Le groupe a organisé une vingtaine de traversées de la Manche par small boats, dont 3 ont entraîné des naufrages.
Ok, de là l'accusation de mise en danger.
Voilà. Et ces derniers temps, bon, faut savoir que la taille des bateaux utilisés pour les traversées de la Manche a beaucoup augmenté parce que les passeurs veulent maximiser chaque passage. Auparavant, les embarcations contenaient une dizaine de personnes et maintenant, la plupart vont jusqu'à une vingtaine de personnes migrantes à bord. Et ce changement-là, ben, s'accompagne d'une hausse des prix aussi des traversées. Pour vous donner une idée là d'à quel point c'est lucratif, on est passé d'environ 2 800 € à 5 300 et même jusqu'à 5 900 € par personne.
C'est pas rien. Hein?
C'est pas rien. Faites le calcul vite là, pour une embarcation de 20 personnes, ça veut dire que c'est entre 106 000 et 118 000 euros.
C'est
que
super
ça
lucratif. En plus, c'est pas comme la Méditerranée, c'est pas une traversée qui est si longue que ça non plus.
Non, c'est ça. Mais bon, ça c'est de la petite bière par contre comparativement à un autre réseau qui lui acheminait des personnes migrantes depuis le centre de la France jusqu'en Angleterre mais par camion cette fois-ci. Okay. C'est une filière qui aurait rapporté plus de 70 millions d'euros et dont 27 membres, encore une fois kurdes irakiens, ont été condamnés à la fin mars là à des peines de prison allant de 18 mois à 7 ans. Dans ce procès-ci, il y a 24 hommes qui ont ici écopé d'une interdiction de territoire définitive en France. Aucun a été reconnu coupable de traite d'êtres humains comme tel, mais plutôt un peu comme dans l'autre procès, là, dans aide à l'entrée sur le territoire, à la circulation ou au séjour irrégulier d'étrangers en bande organisée, mais aussi de blanchiment en bande organisée. Le procès a eu lieu 4 ans après le lancement d'une vaste enquête qui avait été confiée à la juridiction de Rennes, qui, elle, avait découvert l'existence de ce réseau de passeurs-là qui utilisait comme point névralgique les aires d'autoroute du centre du pays, un peu pour brouiller les pistes, justement, parce que ça se trouve loin des campements du littoral du nord de la France.
C'était comme les points de rendez-vous pour je peux pas dire l'embarquement, mais pour embarquer dans les camions.
Ouais, je vais vous expliquer un peu le modus operandi dans quelques secondes. Mais comme je disais, bon, la filière a récolté près de 70 millions d'euros. C'est en deux ans, de 2018 à 2020. Et pendant cette période-là, ils ont pris en charge environ 10 000 personnes migrantes. Pour monter dans un camion, c'est 6 000 €. Mais le montant pouvait facilement augmenter à 8 000, voire même 10 000 euros si le chauffeur, qui était évidemment complice, aménageait une cache.
Okay.
C'est ce qui était, c'était l'option qualifiée de VIP par les trafiquants.
Mais la cache, quoi, a moins de chances d'être pris par des gendarmes ou je sais pas trop.
C'est ça, puis plus confortable. Donc, le modus operandi, comme je disais, c'est en attendant la traversée ou le passage, là, comme tel, les migrants étaient dirigés vers des squats de fortune ou des zones d'attente qu'on appelle dans le centre de la France. Ça pouvait être des appartements, une usine abandonnée ou une caravane. Puis les passeurs les amenaient ensuite dans la région de la Loire, soit à bord de fourgons ou des voitures. Et le jour J, ben, ils étaient appelés par des hommes encagoulés qui les faisaient embarquer de nuit à bord de poids lourds qui étaient stationnés justement sur des aires d'autoroute.
Okay.
Certaines de ces personnes-là, évidemment, finissaient par monter dans des camions réfrigérés et ce, au péril de leur vie, ce qui m'amène à ma dernière nouvelle qui concerne cette histoire de camions charniers en 2019, je ne sais pas si vous vous rappelez.
C'était particulièrement macabre.
Oui, au Royaume-Uni, où 39 migrants vietnamiens sont morts d'hypothermie et asphyxiés dans le camion frigorifique qui les amenait en Angleterre. Eh bien là, le 21 mars dernier, le chauffeur de camion d'origine roumaine qui était chargé de les récupérer en Angleterre, les migrants vietnamiens qui arrivaient de Belgique, il a été condamné à 3 ans et 10 mois de prison par une cour britannique.
OK.
C'est que à l'époque, en 2019, quelques heures après la découverte des corps, ce camionneur avait fui le pays. En juin 2021, il avait finalement été arrêté en Italie et près de Milan, et puis extradé au Royaume-Uni en septembre dernier. Donc, c'est son procès qui a eu lieu. Au total, dans cette cause-là, à date, c'est 8 hommes qui ont été condamnés à ce jour-ci dans cette affaire, comme tu le disais, Simon, très macabre. Pour rappel, les membres du réseau qui acheminaient officiellement vers les îles britanniques des, et je cite, biscuits vietnamiens. C'est ce qui était écrit sur les bons de commande qui avaient trompé la vigilance de la douane belge.
Ben oui, genre de code, là. Mais on voit que c'est vraiment très organisé. C'est pas juste je te prends et je t'amène sur le pouce, là. C'est vraiment...
Non, c'est ça. Et c'est très lucratif, comme je disais, là. 70 millions d'euros, c'est...
Et qui ne demande pas tant de moyens que ça non plus. Ben écoute, merci Marie-Ève. On commence l'émission.
Je vais essayer d'être un peu plus positive pour mon prochain bloc.
Moi, je suis pas sûr de l'être dans les secondes qui suivent. On s'en va en Inde avant de passer en musique. Là, quelques nouvelles de l'Inde. Donc, un verdict important qui a été rendu fin février. Un procès qui durait depuis 10 ans, qui faisait suite à une série d'attentats islamistes qui avaient fait 56 morts et 200 blessés à Ahmedabad, dans le nord-ouest de l'Inde, en 2008. Donc, 28 personnes ont été acquittées, 49 reconnues coupables, dont 38 condamnées à mort et 11 à la prison à vie. Les attentats sanglants faisaient suite à des affrontements civils qui avaient fait 2000 morts, surtout musulmans, en 2002 aux mains de milices hindouistes. L'Inde est un pays où la peine de mort est la plus pratiquée au monde, à part peut-être la Chine, parce qu'on n'a pas les chiffres, c'est secret, là. Actuellement, il y a 500 personnes en attente d'être exécutées. Et la question musulmane en Inde est extrêmement compliquée. Toutes les questions intercommunautaires, interreligieuses, on en a souvent parlé. Sous apatride, il y a un genre de sentiment populaire, un genre d'islamophobie rampante et des lois islamophobes carrément assez intenses en Inde. Début mars, il y a eu des élections régionales dans plusieurs États indiens. Celui qui retient le plus l'attention, c'est l'État de l'Uttar Pradesh. C'est l'État indien le plus peuplé avec 230 millions d'habitants, territoire qui touche à la fois aux banlieues de New Delhi et au Népal. Et on n'est pas très loin du Bangladesh non plus. Et comme dans plusieurs autres des autres États qui étaient en élection, ça a été remporté de manière écrasante par le parti nationaliste hindouiste BJP, qui est aussi le parti du très islamophobe premier ministre indien Narendra Modi. La domination politique des mouvements hindouistes nationalistes, c'est vraiment une tendance lourde. Là. C'est rendu une domination pratiquement totale, presque sans compétition, et ça met la table pour les élections générales de 2024. Donc, c'est un moine radical, Yogi Adityanath, reconduit pour un deuxième mandat dans l'État le plus peuplé de l'Inde, l'Uttar Pradesh. Exemple récent de politique locale islamophobe, comme on en voit des centaines en Inde depuis des années, donc dans le sud du pays, dans l'État de Karnataka, qui est contrôlé qu'à par le parti BJP. Mais comme ça, en plein trimestre scolaire, les directions d'université ont reçu l'ordre d'interdire aux étudiantes musulmanes de porter le voile dans les salles de classe. Ça donne lieu à toutes sortes de scènes surréalistes. Des hordes d'hommes hindouistes qui poursuivent et harcèlent des femmes musulmanes souvent seules, leur bloquent les entrées des campus et des pavillons en leur criant des insultes, en leur lançant des objets. On est pratiquement sur le bord du lynchage dans beaucoup de cas, mais heureusement, il n'y a pas encore eu d'étudiantes tuées par ces foules d'hommes en colère. Il faut rappeler que, bon, c'est un phénomène qui est régional aussi. Dans un pays limitrophe de l'Inde, il y a le génocide des Rohingyas, et on rapportait que le gouvernement indien déportait des réfugiés Rohingyas vers le Myanmar. Petite avancée dans le dossier Rohingya. Il y a quelques semaines, Washington reconnaissait officiellement le massacre des Rohingyas comme un génocide, ce qui pourrait sûrement favoriser les procédures actuelles à la Cour pénale internationale de justice pour inculper les responsables et mener peut-être des actions en réparation, mais on est vraiment pas rendu là.
Ouais, non, c'est ça, j'allais dire.
Donc voilà pour l'Inde, toujours aux apatrides anonymes. On va aller en musique, on va mettre la table pour Mathieu et son segment racisme crémeux avec une pièce de circonstance, Fia to the Fascist, qu'on pourrait traduire par honte aux fascistes. Ça date quand même d'octobre 2020, mais on n'en avait jamais fait jouer et c'est super bon. Il faut absolument aller voir les vidéos de la chanson. Donc, c'est une pièce de Rebel Diaz et Tef Po. C'est sur l'album Multiply Volume 2. Rebel Diaz, c'est deux rappeurs d'origine chilienne du Bronx, où ils ont d'ailleurs fondé le Rebel Diaz Arts Collective, un centre culturel et d'éducation populaire pour les jeunes. Ils sont accompagnés de Tef Po. Lui, il vient de Saint-Louis. très impliqué dans les manifs à Ferguson, Missouri, suite à la mort de Michael Brown par la police. On peut voir TEFPO dans le documentaire Who's Streets, nominé dans plein de festivals. Et on va retrouver Mathieu juste après, mais pour l'instant, sur choc.ca, on écoute Fia to the Fascist par Rebel Diaz et TEFPO.
For short, that's Antifa. So if you hate on that, David Duke must be your teacher. I'm trying to see some UNITY like Latifah. That's kind of hard with Donald Trump as they lead. Five years for some weed, now they legalizing reefer. Hate it when we speak, but our music on they speakers. Hate it when we kneel, but they love buying our sneakers. Shut up and dribble while they killing all your people. Might catch a session in the hood with the homies, but I'd rather catch sessions in the hood with the homies. Or maybe Stephen Miller, or maybe Mike Pence. I'm trying to punch Richard Spencer with the strength of Richard Dent. So long live Heather, I'ma say that line forever. She gave her life so we can make tomorrow better. Oh, I heard you proud, boy. You really proud, boy. I'll punch you in your lip, leave you leaking from the mouth, boy. Y'all ain't even deep, unless you backed up by police. Bigger threats on these streets, that don't mean you get to speak. Shut it down when y'all around, nothing to talk about. If you out to kill my people, I'ma turn them tables round like fire to the fascists. Fire to the fascists. Fire to the fascists. Fire to the fascists. Pinochet was wrong, motherfuck the right. That include the liberals, black, Latino, and white. Anybody that put a price on your hard work, a day profiting while you struggling to make it to payday. Labor that you gave and paid for, they vacay. Workers versus the bosses, I'm Chicago on May Day. Haymarket struggle gave us 8-hour work days. Free market hustlers want us hungry and thirsty. No love for fascists, no love for headfans, no love for anyone furthering my oppression. Poder a las mujeres, make power collectivist. Anything else, fascism in development.
Fuck the Proud Boys, you out of style, boy. I run a mile for it, Glock in my hand, busting at all y'all. Load up this semi and thrust it at all y'all. I don't give a fuck, hit them bastards up, shoot them bastards up. Fuck Robert Brown, 16 in a clip, and I gotta throw it. My dick bigger than yours, and you gotta know it. I'm kamikaze, I know they despise me. Shoot at your dome, I say it wisely. Ski mask covered, cause they can't recognize me. Fuck a Nazi, I'm throwing shots at your chest like fuck your body. Pipe bomb getting mailed to a Klansman. Since y'all tried to kill Maxine Waters, let that be the answer. I ain't got no love for none of y'all. We ain't them lames you see on TV. Run up on me, then the gun involved. I break through, every word out of Donald Trump's mouth is fake news. Fire to the fascists, I got it mastered, fly, fly. Fuck the Proud Boys and Mike Pence, you can suck my dick. Probably be murdered rapping stuff like this.
Fire to the fascists. Fire to the fascists. Fire to the fascists. Fire to the fascists.
To the fascist.
Mathieu, t'es en studio, on est toujours aux Apatrides sur Choc.
Oui, je parlerai pas de fascistes et de nazis comme j'ai fait il y a quelques semaines parce que j'avais pas de nouvelles récentes là-dessus.
Ok, c'est bon de varier les sujets aussi.
Mais on va parler quand même de ça parce qu'on va parler de criminels entre autres, donc c'est fait entre autres par ces rapaces-là.
Effectivement.
Donc, forte hausse des criminels au Canada en 2020. Les chiffres sont sortis officiellement il y a deux semaines.
Okay.
Statistique Canada, donc rapporte que les services de police du pays ont déclaré près de 2700 affaires de criminaux en 2020, 37% de plus qu'en 2019.
Quand même.
C'était aussi le nombre le plus élevé de crimes c'était aussi le nombre le plus élevé depuis que les données comparables sont devenues disponibles en 2009.
Historiquement, donc, c'est le chiffre le plus élevé.
Depuis 2009, okay. Oui. Le nombre de criminaux ciblant l'origine ethnique a bondi de 80% par rapport à l'année passée, l'année d'avant qui était 2019. Les plus fortes augmentations ont ciblé dans l'ordre les personnes noires, asiatiques de l'Est ou du Sud-Est, les autochtones et les sud-asiatiques. Et pendant que le nombre de criminels augmentait, le taux global de crime a diminué de 10%. officiellement, dans ce qui est rapporté puis dans ce qui est su. Donc, 57% des affaires de criminels étaient sans violence, entre guillemets, alors que 43% étaient de nature violente. Donc, ça, c'est une information importante aussi.
Ben ouais.
Et malgré un recul de 2% des criminels ciblant l'orientation sexuelle en 2020, les 259 affaires déclarées représentaient le deuxième nombre en importance depuis 2009. Donc, quand même. Donc, Stats Canada a observé que les augmentations en pourcentage les plus marquées ont été enregistrées en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique, en Saskatchewan, en Alberta et en Ontario.
OK.
J'ai un exemple pour Ottawa. Il y a eu un article qui est sorti là-dessus. L'unité des crimes haineux et préjugés du service de police d'Ottawa, c'est son nom, rapporte une augmentation de 43,6% du nombre de signalements reçus en 2021. Eux, c'est les chiffres de 2021, non pas de 2020, okay. En lien avec des incidents motivés par la haine. Les plus graves infractions constatées étaient le méfait à l'égard des biens, les voies de fait, la profération de menaces, les méfaits haineux et l'agression armée. Et on parle dans l'ordre des personnes juives, noires, LGBTQ+, asiatiques de l'Est et du Sud-Est, arabes et asiatiques de l'Ouest et musulmanes.
Les camions, c'est pas en 2021, ça, à Ottawa, là.
Non.
Non, donc ça inclut rien qui pourrait être lié à ça.
Exactement, c'est en 2022, t'as tout à fait raison. Mais c'est bonne observation, c'est vraiment par l'Ottawa. Donc, les 260 signalements jugés comme étant de nature criminelle en 2021 ne représentaient que la pointe de l'iceberg, car historiquement, les criminels sont largement sous-déclarés pour toutes sortes de raisons qu'on sait. Les champions, quand même, comme d'habitude, c'est l'Alberta. L'Alberta a annoncé il y a quelques semaines qu'elle faisait passer son budget consacré à la lutte contre le crime à caractère haineux qui cible les groupes religieux ou communautaires de 2 à 5 millions de dollars par année.
Okay.
Les premiers fonds qui ont été accordés, destinés à la lutte contre les crimes haineux, ont été octroyés l'été dernier. C'est une nouveauté en Alberta.
Okay.
Peu de temps avant que des églises soient incendiées ou vandalisées à la suite de la découverte des sépultures anonymes à proximité d'anciens pensionnats. Donc, voilà pourquoi on cible beaucoup, on donne de l'argent aux groupes religieux et organismes sans but lucratif pour qu'ils puissent demander de l'argent pour ériger des clôtures, installer des caméras ou se protéger contre les graffitis. Donc, on voit c'est pour les groupes religieux et c'est pour de la sécurité, là. C'est pour
les crimes haineux envers les communautés religieuses ont, peu importe la confession, ont augmenté en Alberta ou c'est plus parce qu'on vise des églises catholiques que là on est plus sensibilisé?
J'essayais de faire comme lien. J'ai pas documenté en détail.
Ça prend des données vraiment fines là, pour analyser ça.
Tout à fait.
Ça,
mais là, oups, il y a des incidents contre des églises catholiques, entre autres. Oups, on sort de l'argent contre les crimes haineux. Puis c'est pour la sécurité. Puis c'est des petits montants, là, on s'entend.
Non,
puis
de
là.
Toute façon, ça n'a rien à voir avec la prévention. De toute façon, c'est ça, ça n'a rien à voir avec
la prévention.
On ne
parle pas de sensibilisation, on parle pas d'éducation.
Non,
tout à fait. Et pendant ce temps-là, sur le terrain, il y a des crimes haineux ou des actes haineux qui arrivent toujours. Un homme a été accusé à la suite d'une attaque dans une mosquée près de Toronto le 19 mars dernier. C'est quand même particulier. Des hommes priaient à la mosquée Dar al-Tawed à Mississauga et ont été aspergés de poivre de Cayenne par un monsieur qui brandissait une hache. Et il a été maîtrisé par les fidèles puis arrêté par les policiers. Fait qu'il n'y a pas eu de blessés en tant que tel à part le poivre de Cayenne.
Violence, là.
Quand même, à 7h du matin, un samedi, là. Quand même, ça réveille. L'attaque à quelque chose au début du Ramadan a causé un choc et un sentiment de peur dans la communauté musulmane de la région de Toronto. Ces craintes sont d'autant plus exprimées que les musulmans n'ont pas pu se recueillir en groupe à l'occasion du Ramadan depuis bientôt 3 ans à cause de la pandémie. Mais comme d'autres communautés. Ces derniers mois, d'autres attaques ont touché la communauté musulmane ontarienne. En septembre 2020, un employé d'une mosquée à Rexdale, un quartier du nord-ouest de Toronto, est décédé devant le bâtiment après avoir été poignardé par un gars qui a été arrêté finalement puis qui était un suprémaciste. 9 mois plus tard, 4 membres d'une famille musulmane ont été fauchés mortellement à London, on s'en rappelle très bien, en 2021. Le centre islamique de Toronto a choisi d'engager des gardes de sécurité professionnels pendant le Ramadan pour garder les portes en raison de l'attaque à Mississauga. Plusieurs autres mosquées dans la région de Toronto ont ajouté des mesures de sécurité. Et ces mesures ont des coûts assez importants pour les mosquées qui ne peuvent pas nécessairement l'assumer. Donc, c'est un peu ça l'ambiance en Ontario actuellement suite à London et ce qui est arrivé à Mississauga, donc récemment. Mm. Il me reste un peu de temps, Simon?
Oui, je crois que oui. Quelques nouvelles.
J'en ai 2 petites autres. Là, je change de province. On fait un petit tour du Canada dans mes 2 chroniques aujourd'hui.
Parfait.
Et on parle de plus d'enjeux autochtones. Un autochtone de la Première Nation, Pégis, dénonce un incident de profilage racial survenu en février dernier. C'est un incident de racisme policier assez commun, mais il y a 2-3 trucs que je trouvais intéressants. Donc, Junior Cochrane a déposé une plainte formelle auprès de l'organisme chargé des enquêtes au Manitoba. Donc, il se trouvait à l'extérieur d'un hôtel. Il était sur place en tant qu'ambassadeur pour le secrétariat à la santé et aux services sociaux des Premières Nations du Manitoba. Mm-hmm. Et la police lui a demandé qu'est-ce qu'il faisait, il était où. Il a pris son téléphone, les policiers ont sorti leurs armes, menotté, placé à l'arrière d'une voiture de patrouille. Ils ont demandé qu'est-ce qu'il avait bu, en quelle quantité. Bon, vous voyez un petit peu le portrait habituel.
Interrogatoire musclé.
Pour les Autochtones, évidemment, pour un Autochtone. Il correspondait à la description d'un suspect recherché pour voie de fait. Finalement, bon, il a été libéré et là, il a déposé des plaintes. Mais ce qui est particulier, c'est que le secrétariat à la santé et au développement social des Premières Nations pour lequel M. Cochrane travaillait a offert aux policiers impliqués dans l'incident de prendre part à un cercle de partage pour discuter de l'enjeu et dénouer le conflit.
Oh, les policiers sont peut-être pas habitués à ce genre d'activité.
Ben, écoute, l'invitation a été déclinée par les policiers en raison des conventions collectives et de la plainte qui a été déposée pour profilage.
Ah non, Yves Francaire du Manitoba.
Pour le secrétariat, ça aurait été une belle occasion de s'aligner avec les recommandations de la Commission Vérité et Réconciliation du Canada. Mais bon, c'est juste anecdotique un peu, mais je voulais vous le raconter que quand même, ils sont pas tombés sur le bon gars, finalement. Puis là, ils ont l'air fous parce qu'ils refusent de faire des démarches de médiation.
Ben oui, mais ça me fait rire. Ils se ressemblent tous, tu sais, un peu comme pour les Noirs, là, on voit ça souvent.
Oui, oui, oui. Puis de mon dernier sujet, c'est moi, ça va t'interpeller. La Ville de Montréal a dévoilé la semaine passée une série de mesures pour combattre le racisme et les discriminations systémiques au sein de ses institutions.
Ah bon?
Elle mise entre autres sur la formation des différents agents municipaux et sur la mise en place d'outils administratifs. On parle de 12 engagements pour 2022 afin de favoriser l'inclusion sociale. La démarche, comme tu sais, fait suite à la consultation publique sur le racisme de l'Office de consultation publique de Montréal menée en 2018 et 2019. Mm-hmm. À la suite du dépôt du rapport en 2020, la Ville de Montréal avait reconnu l'existence de racisme et de discrimination systémique à l'intérieur des instances de la Ville. Depuis, la Ville a embauché une commissaire à la lutte contre le racisme et les discriminations qui s'appelle Boshra Manahi.
Oui, conseillée par M. Legault, je crois.
Oui, oui, recommandée par M. Legault.
Recommandée, c'est ça.
L'un des volets, la sécurité publique, où l'on souhaite enrayer le profilage racial. C'est lié un peu avec mon autre sujet d'avant. Mm-hmm. Dans son plan d'action, la Ville prévoit notamment de renforcer la formation des agents du SPVM pour qu'ils puissent intervenir de manière plus adéquate. La Ville compte aussi se doter de mécanismes pour faciliter le cheminement des plaintes des employés municipaux qui se sentent victimes de racisme ou de discrimination.
Ben c'est bien.
Elle s'engage également à promouvoir par différents moyens l'équité culturelle, territoriale et économique. Elle veut entre autres assurer une plus grande représentativité des diversités dans les festivals événements culturels à Montréal, une meilleure distribution des investissements municipaux et lutter contre les pratiques discriminatoires en matière de logement. Enfin, la Ville souhaite accroître la participation citoyenne des personnes racisées et autochtones. Donc, c'est en 2022, disons qu'on tombe pas à bonne notre chaise quand on voit ces trucs-là. Là.
Non, je dirais pas que c'est du réchauffé, mais c'est bien d'affirmer ces choses-là, mais il faut que les actions suivent. Là,
oui, puis s'il y avait pas ces choses-là avant, il y avait un petit problème, on s'entend. Puis la formation des policiers, ben, à Marie-Ève.
Qu'est-ce qu'elle a, la formation des policiers?
Je vais vous parler, je vais vous parler tantôt de Thunderbird, entre autres. Vous allez voir, ça sert à rien, non?
Merci, Marie-Ève, pour ton petit grain de sel. On te retrouve dans un tout petit instant aux Apatrides. En Europe avec Marie-Ève.
Eh oui!
Tu vas parler de formation des policiers à Paris ou...
Qui sert à rien.
À rien par rapport.
Non, je vous amène, en fait, on va faire un petit tour des actualités d'Europe de l'Ouest et je commence par le Royaume-Uni. Je vais rester un peu dans mon...
Parfait.
Donc on, où c'est qu'on était tantôt, je ne serai pas trop perdu.
Tu nous reprends là où tu nous as laissé.
C'est
voilà.
Cela. Et où est-ce, en fait, c'est qu'on a vu dernièrement là, que ce qui était vu comme la plus grande refonte du système d'asile du pays pays depuis des décennies qui a subi un sérieux revers au début du mois de mars. C'est qu'un an après la présentation devant la Chambre des communes, la réforme préparée par la ministre de l'Intérieur Priti Patel, ma préférée, qui avait comme principal objectif de ne plus accorder les mêmes droits aux personnes entrées légalement ou clandestinement dans le pays, ben cette réforme-là a du plomb dans l'aile. Oui, on est déçus. Ben là, faut bien je donne des bonnes nouvelles. Les députés de la Chambre des Lords ont non seulement rétorqué à la réforme en présentant plusieurs contre-propositions, mais ils ont aussi voté en faveur de l'amendement Dobbs, qui est une mesure qui autorise les mineurs non accompagnés à rejoindre leur famille en sol anglais. Sur le sol anglais, je vais vous expliquer, c'est que depuis le Brexit, soit depuis le 1er janvier 2021, la loi sur le regroupement familial du règlement Dublin ne s'applique plus au Royaume-Uni, étant donné que fait plus partie de l'Union européenne.
C'est ça.
Et donc, les enfants réfugiés non accompagnés ont plus aucun moyen de rejoindre le sol britannique par une voie sûre et légale. Donc, tout ce qui leur reste comme possibilité, comme des milliers d'autres demandeurs d'asile, puis un peu comme on a vu tantôt, ben c'est se tourner vers des passeurs ou emprunter des routes dangereuses. Donc,
parce que eux, ils sont pas encore au Royaume-Uni. Ils sont, mettons, en France, par exemple, et veulent rejoindre la famille qui, elle, est déjà au Royaume-Uni.
Voilà, okay, c'est ça. Parfait. C'est le regroupement familial, c'est ça. Et donc, bon, là, cet amendement-là, cette amende, la Chambre des Lords ont voté en faveur, mais là, cet amendement reste à être validé par la Chambre des communes du Parlement britannique dans les prochaines semaines, mais il y a quand même de bonnes chances d'être adopté. Puis quant aux autres points de réforme, là, c'était contre les contre-propositions et les autres points. On va y revenir aussi. J'y reviendrai éventuellement un peu plus tard.
Okay.
Parce que ça manquait de détails, en fait. Je reste sur la thématique des personnes mineures. Selon le plus récent rapport annuel du Forum tunisien des droits économiques et sociaux, plus de 2700 d'entre eux ont traversé la Méditerranée depuis la Tunisie pour rejoindre l'Italie en 2021.
Okay.
Une année record. C'est 4 fois plus qu'en 2017. Parmi ces mineurs arrivés en Italie, il y en a 2000 environ qui étaient non accompagnés, quand même sur 2700, c'est une très grande proportion. Et entre 70 et 80% de ces jeunes-là sont originaires d'Afrique subsaharienne. Si on regarde les arrivées en Italie depuis la Tunisie, tous âges confondus, elles ont beaucoup augmenté l'année passée. Les arrivées ont atteint 15 700. C'était 12 900, pardon, en 2020. Puis en 2017, était seulement un peu plus que 6 000, toujours selon le rapport du Forum. Puis quant aux tentatives qui ont échoué. Elles ont quasiment doublé, elles aussi. Les gardes-côtes tunisiens ont intercepté un peu plus de 25 600 migrants qui tentaient la traversée en 2021.
C'est beaucoup.
C'est beaucoup. Parce c'était 13 500 en 2020.
Tu parlais d'énormes augmentations. Si on aurait pris par rapport à 2019-2020, on aurait compris pourquoi. Mais là, c'est par rapport à 2017, qui est une année dite normale. Donc, c'est vraiment énorme.
C'est vraiment énorme. Mais le doublé, par exemple, c'est vraiment par rapport à 2020. Pour ce qui est des interceptions, en tout cas. Mais au-delà des interceptions par les gardes-côtes, il y a aussi toutes les personnes, évidemment, qui meurent en tentant la traversée. Par exemple, en 3 jours, pendant la 3e semaine de mars, il y a au moins 25 cadavres de migrants tunisiens et syriens qui tentaient de rejoindre l'Europe, qui ont été rejetés par la mer au large des côtes du nord-est de la Tunisie. Ça c'est selon un bilan de l'OIM. Et ces drames, ce type de drame-là, ils se succèdent, en fait. 9 personnes avaient déjà été retrouvées mortes dans leurs embarcations à la fin février. Et à la fin janvier, il y a un autre naufrage qui avait fait 6 morts et 30 disparus. On se déplace ensuite vers l'Espagne, où les autorités auraient repris les vols de rapatriement de migrants en situation irrégulière vers le Maroc.
Okay.
C'est que, selon des informations relayées par la presse espagnole qui cite des sources policières, le premier vol transportant une 20aine de migrants marocains aurait décollé le 22 mars des îles Canaries en direction de Laayoune, principale ville du Sahara occidental.
OK, ouais.
C'est que les vols de rapatriement d'exilés marocains étaient suspendus depuis avril 2021. en partie à cause des raisons pour des raisons sanitaires, mais aussi à cause des relations très tendues entre l'Espagne et le Maroc. Et au cœur de cette brouille diplomatique-là, c'est le Sahara occidental, qui est une ancienne colonie espagnole et qui est le seul territoire, encore aujourd'hui, territoire africain au statut post-colonial non défini. Donc, Rabat, qui est la capitale du Maroc, contrôle près de 80 % de ce territoire-là. Elle propose un plan d'autonomie sous sa souveraineté, évidemment, tandis que les indépendantistes sahraouis du Front Polisario, eux, réclament un référendum d'autodétermination. Or, en avril 2021, l'Espagne avait accueilli le chef du Front Polisario, Brahim Ghali, pour qu'il soit soigné.
Ça avait fait un incident diplomatique.
Oui, ça avait suscité l'ire de Rabat, évidemment. Ouais. Et donc, depuis, les pourparlers pour reprendre les expulsions étaient au point mort. Mais là, le 19 mars dernier, le gouvernement espagnol a soutenu pour la première fois publiquement la position de Rabat dans le dossier du Sahara occidental, ce qui est vraiment un changement radical parce que l'Espagne avait toujours prôné la neutralité entre Rabat et le Polisario. Donc, là, les expulsions devraient reprendre au même rythme que par le passé, c'est-à-dire à raison de 4 vols hebdomadaires avec 20 personnes à bord, donc un total d'à peu près 80 personnes rapatriées par semaine. Puis en 2021, selon les données du système européen de surveillance des frontières, l'Eurosur, environ 31% des près de 42 000 personnes arrivées irrégulièrement en Espagne sont d'origine marocaine.
OK. De là, peut-être une genre de régularisation des relations pour pouvoir justement expulser davantage.
Là. Ben, je pense que c'était dans... Ouais, c'est ça.
On n'est pas dupes.
Et je vais terminer en remontant vers la Belgique où les règles... Oui, on se promène.
Ben oui.
Où les règles de la politique d'accueil des Afghans se sont durcies puisque le 2 mars, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, le CGRA, ne considère plus l'Afghanistan comme un pays à risque, exactement comme le Danemark l'a fait en février. Je vous en avais parlé à l'émission.
Oui, ben je pense dans l'indice du bonheur, c'est entre la Norvège et l'Antwerp.
Et l'Afghanistan, oui,
c'est ça.
Depuis la prise de Kaboul par les talibans en août 2021, la Belgique avait assoupli les conditions d'examen de protection subsidiaire des Afghans. Qu'est-ce qu'une protection subsidiaire? C'est qu'il faut savoir qu'en Belgique, le statut de réfugié donne droit à un titre de séjour de 5 ans renouvelable contre seulement un an pour la protection subsidiaire. Fait que c'est comme une espèce de protection temporaire, dans le fond, la protection subsidiaire.
Okay.
Et donc, ce qui se passait, c'est qu'après un entretien individuel puis l'examen du dossier, ben là, si le demandeur remplissait les conditions pour le statut de réfugié, ben là, il obtenait sa protection internationale. Et dans le cas contraire, ben la décision était suspendue. Autrement dit, les dossiers étaient plus rejetés, mais ils étaient mis en attente en attendant de voir si une protection subsidiaire pourrait être accordée.
Okay.
Puis pendant ces mois de suspension-là, ben le demandeur d'asile afghan ne pouvait pas être débouté. Et donc, c'est cette mise en attente-là qui vient d'être levée. Puis jusqu'ici, le CGRA justifiait cette mise en attente-là par un manque d'informations sur la situation en Afghanistan ou sur l'attitude des talibans, ce qui compliquait le travail d'évaluation pour certains dossiers. Mais là, le CGRA juge que maintenant, les informations sont suffisantes pour l'évaluation du statut de protection subsidiaire. Il se dit évidemment conscient que la situation en Afghanistan reste extrêmement problématique.
Ben, mais ça.
Et même s'il reconnaît que, bon, évidemment, il y a nombreuses personnes qui ont fui le pays, qui ont besoin de protection, il considère que c'est pas nécessairement le cas de tout le monde. Donc, à partir de maintenant, ils vont considérer l'Afghanistan comme n'importe quel autre pays, et chaque situation va être examinée sur une base individuelle, et donc les Afghans vont pouvoir de nouveau être déboutés.
Drôle de décision.
Drôle de décision, effectivement. Je vais terminer juste en expliquant un petit truc qui est important de savoir concernant la protection subsidiaire, c'est que cette protection-là peut être accordée selon 3 motifs qui sont définis par l'article 15 de la directive européenne de 2004. D'abord, il y a le risque de peine de mort dans le pays d'origine. Mm-hmm. Ensuite, celui des traitements ou sanctions inhumaines ou dégradantes. Et le dernier motif, qui est celui de la situation sécuritaire, couvre les menaces graves et individuelles en raison d'une violence aveugle ou en cas de conflit armé. Et sur ce point-là précis, le CGRA affirme, et je cite, « Avec la prise de pouvoir par les talibans, les conditions de sécurité ont significativement changé. On n'observe plus de risque réel d'être victime d'une violence aveugle en Afghanistan. » Parce qu'ils disent qu'il n'y a plus de combat, puis voyez le genre.
Je ne sais pas où ils prennent leurs informations, mais si on regarde la plupart des organismes observateurs sur place, tout le monde s'entend que c'est une des pires situations de la planète actuellement en Afghanistan.
Ben, pour ce qui est des ONG belges, en tout cas, ce qu'elles craignent le plus, en fait, c'est que toutes les personnes qui ne correspondent pas au profil habituel dit à risque, là, mettons comme les personnes LGBTQ+, les journalistes, les opposants politiques, par exemple, ben, toutes ces personnes-là risquent de se retrouver sans protection.
Donc, ce sera des examens individuels et non plus, enfin. Bon, ben, merci beaucoup, Marie-Ève.
Je pense qu'on risque de voir une couple de pays de l'Union européenne prendre ce genre de
Ouais, ben, de souvent, ils vont s'aligner sur, ouais, le premier qui prend une décision, les autres suivent. On est toujours aux apatrides. Ben merci, ça fait le tour des enjeux européens, mais évidemment
en lien
avec d'autres régions du monde qui sont en crise. On va maintenant aller en musique avec une nouveauté qui est au palmarès au World de Choc. La pièce, c'est Protect Action from Evil de Ibido Sound Machine, qui est un groupe électro, afro, funk, breakbeat, de Londres, avec des musiciens d'origine variée, diverses, du Brésil, du Ghana. Aussi avec la magnifique chanteuse et front woman d'origine nigériane, Eno Williams. C'est tiré de l'album Electricity, c'est sur Merge Records et c'est la pièce Protection from Evil du collectif Ibidio Sound Machine.
Shit,
Ebidio Sound Machine sur choc.ca. Donc, avant de céder le micro à Mathieu sur des enjeux autochtones en lien... oh, il est content, en lien avec la loi sur la protection de la jeunesse, entre autres.
Entre autres.
Moi, j'ai quelques brèves non moins autochtones avant de vous parler du pape. On vous avait dit que... Hey, Marie-Ève, tout le monde est content, mon Dieu. On vous avait dit qu'on vous parlerait du pape en 2022.
Moi, j'adore quand on parle du pape.
Francisco. on commence avec le Chili. Le pape s'en vient, là. Ne vous inquiétez pas. Le Chili, où le nouveau gouvernement de Gabriel Boric vient de commencer son premier mandat avec une forte présence autochtone des représentants des sept nations qui ont participé à une cérémonie rituelle en présence de la nouvelle présidence avec des mots tels que territoire plurinational, respect, dialogue, participation de tous les peuples chiliens et non juste du peuple chilien au singulier. Mm-hmm. Donc, on est encore dans la symbolique pour l'instant. Le gouvernement n'a pas encore siégé ou promulgué de loi. Là. C'est tout nouveau, tout beau. Mais il y a déjà quand même une rupture complète dans le discours et dans le ton là, par rapport à tous les gouvernements antérieurs dans l'histoire du Chili. On va observer ce gouvernement, espérer qu'il y ait des gains législatifs ou territoriaux réels, des changements significatifs. Va falloir aussi regarder si le gouvernement arrive à tenir tête aux multinationales qui emmènent très, très large au Chili depuis Pinochet, en fait. Surtout des entreprises extractivistes, dont pas mal de compagnies canadiennes, dont le terrain de jeu se trouve souvent dans les territoires des Premières Nations. Le pape, donc, il était partout dans l'actualité.
Abeus papam.
mon Dieu, le Mathieu, ton latin
nous
est
avons
excellent.
Un pape.
ah oui, la fumée blanche est sortie. Donc, visite de délégation des Premières Nations à Rome, excuses sur les mauvais traitements prononcés par le Saint-Pontife. Ce qu'on a pu voir dans les médias, c'était surtout des Autochtones soulagés, heureux, qui pleuraient de joie. Évidemment, je ne veux pas enlever cet apaisement, ce réconfort qui est réel, surtout pour les personnes autochtones croyantes et qui pratiquent le catholicisme. Pour ces personnes-là, c'est vraiment quelque chose d'important et qui était attendu depuis des décennies. Mais est-ce que ça raconte toute l'histoire? Bon, d'abord, certains disent que les excuses officielles, ça doit être prononcé en territoire autochtone pour être valide, ce qui sera peut-être fait. On parle d'une visite papale l'été prochain. Il y en a qui restent non pas sceptiques parce que tout le monde a l'air de croire à la sincérité des excuses, mais beaucoup attendent quand même des actions concrètes de réparation, des compensations avant de crier victoire. On veut la rétrocession de certains territoires, on veut la remise de documents et d'artefacts qui ont été volés aux Premières Nations. On veut une vraie grande enquête judiciaire sur les abus passés et présents de l'Église et non pas juste une enquête par l'Église elle-même. On veut de l'aide concrète dans le dossier des charniers et on veut 60 millions de dollars dans le cadre de l'accord sur les pensionnats. Il y a la Conférence des évêques catholiques du Canada qui s'engage verbalement à verser 30 millions dans le cadre du processus de guérison et de réconciliation. Donc, il faudra voir l'argent sonnant quand il arrivera. Il y a Nathan Obed, un des porte-parole Inuit, qui a demandé directement au pape d'intervenir dans le cas d'un prêtre, Johannes Rivoire, accusé de plusieurs viols sur des enfants pour qu'il soit rapatrié au Canada pour être jugé. Il est actuellement réfugié chez les Oblats en France. Pour l'instant, il n'y a pas eu de suite à sa demande. D'ailleurs, je vais sortir du Vatican 5 secondes. Ça me fait penser au cas de la dépouille du père Léon Lajoie, que les Mohawks de Kanawagé veulent exhumer parce qu'il y a plein de témoignages de victimes d'agressions sexuelles qui veulent que justice soit enfin rendue. Je ne crois pas qu'il y ait exhumation prévue pour l'instant.
Il y a eu un référendum et ils ont décidé de l'exhumer, mais ça va se faire cet été.
Ah, OK, donc ça va se faire.
Ça va se faire, oui.
Sinon, pour revenir à ce que je disais par rapport aux excuses du pape, j'écoutais la réaction vidéo de Mélissa Molune-Dupuis sur sa page FB. Et non, c'est pas vrai qu'il y a une belle unanimité comme on pourrait le penser en regardant les bulletins de nouvelles. D'abord, elle disait qu'autour d'elle, il y a vraiment toutes sortes de réactions et pas que des positives, là, loin de là. Elle note que les excuses sont données beaucoup plus sur un ton personnel de la part du pape qu'au nom de l'institution ou de l'Église catholique. Elle reconnaît le soulagement que ça procure à certaines personnes, mais dit en même temps que pour plusieurs autres, c'est un peu trop tard, ben trop peu trop tard, alors que ça fait des décennies que des survivants essaient de se faire entendre et qu'on les croit même pas. Il aura fallu mettre au jour plusieurs fausses communes pour qu'on commence à prendre ça au sérieux. Elle dit qu'il y en a qui veulent absolument rien savoir de ces excuses-là et qui pardonnent pas à l'Église et qui veulent surtout pas que des représentants de l'Église catholique fassent partie de la solution à plus long terme et qui n'étaient pas d'accord pour qu'une délégation choisie, on sait pas trop comment d'ailleurs, se déplace pour aller quêter des excuses à Rome. Elle parle aussi de certaines personnes qui, en voyant ça aux nouvelles, ben, revivent certains traumatismes et veulent pas se replonger là-dedans. J'en dirai pas plus. Elle est vraiment dans la page FB de Mélissa Molune-Dupuis. Un bon vidéo de 10 minutes, publié mardi, donc assez récent, facile à trouver. Vous allez voir, elle aborde plein d'autres aspects qu'on soupçonne même pas. C'est vraiment très intéressant. Mathieu, je te passe le micro. D'autres actualités autochtones.
Hein? Oui, puis on reste dans les mêmes genres de sujets. On parlait de protection de la jeunesse. Mm-hmm. Le gouvernement du Québec s'adresse à la Cour suprême afin de contester la loi C-92, adoptée par le fédéral, qui permet aux Premières Nations d'avoir le contrôle de leur service de protection de la jeunesse. On en a déjà parlé à l'émission plusieurs fois. En février, la Cour d'appel du Québec avait reconnu que cette loi était constitutionnelle, sauf pour deux articles. Et maintenant, Québec conteste donc jusqu'en Cour suprême. On a annoncé ça, donc, c'était il y a deux semaines. En 2019, le gouvernement du Québec avait décidé de contester la loi fédérale devant la Cour d'appel, puisque selon lui, cette loi envahit ses champs de...
Compétences,
bravo. Pour l'Assemblée des Premières Nations, Québec-Labrador, cette nouvelle objection de Québec face à cette loi démontre son intention de remettre en question l'existence même du droit à l'autonomie gouvernementale des Autochtones. Mm-hmm. L'APNQL reproche également à Québec sa décision de faire appel en dépit des invitations répétées à la collaboration. La Cour d'appel exhortait le gouvernement du Québec et celui du Canada à travailler de concert avec les Autochtones pour faciliter la mise en œuvre de ce droit des Premières Nations. Ottawa, de son côté, fait appel aussi, mais des deux articles qui ont été invalidés par la Cour du Québec. Ces articles-là, c'est le cadre qui donnerait à ces lois autochtones force de loi fédérale, qui leur permettrait ainsi d'avoir préséance sur les lois provinciales.
Okay.
Donc, la Cour du Québec, la Cour d'appel a dit que c'était trop fort. Le fédéral pense que c'est une bonne chose, les Autochtones aussi. Donc, le gouvernement du Canada a souhaité que les communautés autochtones puissent exercer efficacement leurs compétences sans qu'elles soient gênées par des lois contradictoires, par exemple provinciales. Donc, ça va aller en Cour suprême d'ici deux ans, peut-être, puis on va voir. Pour l'instant, les projets qui existent continuent, mais les nouveaux projets peuvent pas trop se faire au Québec, donc c'est vraiment un problème important pour le développement du droit des Autochtones là-dessus.
Ouais, ben il y a des projets bloqués actuellement même qui sont promus par des communautés autochtones. Puis
c'est ça, exactement.
D'éoliennes, entre autres. Là, puis
Non, mais je parle au niveau de la protection de la jeunesse, mais OK, c'est bon. Revendication territoriale. La Première Nation, Nouchatlat, s'est présentée récemment devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique pour l'ouverture d'un procès dans lequel elle réclame le retour de son titre ancestral sur son territoire, dont l'île Nootka, située au nord-ouest de l'île de Vancouver. La Première Nation emboîte ainsi le pas à la nation Tsikotin, qui a obtenu gain de cause en 2014 dans un jugement sans précédent qui a accordé pour la première fois un titre ancestral autochtone sur un territoire en Colombie-Britannique. Depuis, la province a adopté une loi officialisant l'application de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Il s'agit donc de la première contestation actuellement judiciaire de ce genre depuis l'adoption de cette fameuse loi qui souligne le droit des peuples autochtones sur leur territoire. Avec ce procès, les dirigeants de la Première Nation Nouchatlat espèrent pouvoir retrouver leur droit de gestion sur une région qui, disent-ils, a souffert pendant des décennies de mauvaise gestion environnementale. Le gouvernement provincial et le fédéral, ainsi que l'entreprise forestière Western Forest Products, sont les visés dans cette affaire judiciaire qui a débuté en 2017. La Première Nation Nouchatlat fait partie de la nation Nouchatnoul, qui est depuis plus de 20 ans en négociation avec la province et le Canada pour la signature d'un traité moderne. Aucun traité historique n'a toutefois été préalablement signé. Donc, ces nations-là, ils veulent avoir un traité actuel, même s'il n'y en avait pas à l'époque, mais ils revendiquent des droits quand même sur le territoire, évidemment. Sinon, semblable aussi, en Saskatchewan, la Première Nation, Carrie the Kettle Nakoda, poursuit le gouvernement de la Saskatchewan. Elle allègue que le gouvernement a vendu des terres de la couronne sans son accord. Cette communauté autochtone, établie à 80 km à l'est de Regina, accuse le ministère de l'Agriculture de ne pas avoir respecté les traités et d'avoir vendu 40 lots sans sa permission, parce que les autres, ils ont un traité.
Okay.
Elle demande que le gouvernement provincial ne puisse pas vendre davantage de terrains dans la communauté sans son accord. La requête allègue que le gouvernement provincial continue à vendre ses terres ancestrales au profit des projets miniers, pétroliers et agricoles.
Tiens donc.
L'avocate qui représente les intérêts de la Première Nation, Carrie the Kettle Nakoda, affirme que la superficie des terres traditionnelles accessibles aux membres de la communauté a beaucoup diminué. Je la cite, « Ils sont en train d'être évincés de leur territoire traditionnel et ils perdent peu à peu leurs droits inscrits dans les traités. » Donc, c'est des causes importantes, bon, qui se passent dans des provinces, mais intéressantes. Pendant ce temps-là, un comité de l'ONU demande au Canada de modifier la loi sur les Indiens. Quelle surprise! Un comité des Nations Unies a demandé au Canada de s'attaquer pleinement à la discrimination fondée sur le sexe dans sa loi sur les Indiens, qui continue d'avoir des répercussions sur des dizaines de milliers de descendants et descendantes de femmes autochtones. Les relations entre l'État canadien et les peuples autochtones sont définies dans cette loi, un texte de 1876 qui a été modifié depuis. Et qui a créé, entre autres, les fameuses réserves. Avant 1985, la loi contenait des dispositions explicitement discriminatoires à l'égard des femmes autochtones qui les privaient de leur statut si elles épousaient un homme non autochtone, ça on le sait déjà. Ce comité-là, c'est le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, composé d'experts indépendants d'un peu partout dans le monde. Malgré de nombreuses contestations judiciaires, le Canada a modifié les dispositions discriminatoires coup par coup, comme on dit, plutôt que de mettre fin à l'ensemble de la discrimination. Donc, il y a eu des petites modifications. On peut plus expulser une femme, par exemple, d'une réserve parce qu'elle a épousé un blanc. Elle peut pas perdre tous ses droits. Mais il y a encore plein de formes de discrimination. Puis c'est surtout les descendants des gens qui ont subi ça avant 1985 qui sont, avec le comité de l'ONU qui vient nous rappeler.
Toujours enchâssé dans notre loi fédérale sur les Indiens.
Tout à fait. La loi existe toujours. Puis elle a été un peu contestée, modifiée. Mais sinon, ça va. Est-ce qu'il me reste une minute, Simon?
Je t'accorde une minute.
Oui, merci. Merci. Ben écoute, t'en as parlé il y a pas longtemps, Thunder Bay, qui est dans le fond la vraie capitale du racisme au Canada, là, à Bas-Repentigny, là, je peux te dire ça, là, parce que
c'est pas juste des interpellations, c'est carrément des assassinats non résolus, toutes sortes d'affaires. Là.
De la discrimination, tu sais.
Repentigny, c'est le racisme anti-noir, puis Thunder Bay, c'est le racisme anti-autochtone.
C'est vrai. Ça,
chacun sa capitale.
Mais c'est beaucoup plus massif et systémique, c'est fou, là. Thunder Bay, juste une petite nouvelle, la commission des services policiers de Thunder Bay affirme que restaurer la confiance des membres des communautés autochtones prendra du temps. Il faudra reconnaître les erreurs du passé et les douleurs qu'elles ont causées, a écrit la commission dans un communiqué publié après une rencontre d'urgence avec les dirigeants autochtones, qui ont réclamé un moratoire sur les enquêtes en cours et ultimement la dissolution du corps policier en raison d'allégations répétées de racisme envers les autochtones. À l'issue de la...
C'est un corps municipal ou c'est la police provinciale?
Non, Thunder Bay.
Okay.
Ouais, ouais. À l'issue de sa réunion, la commission a réitéré sa confiance envers le corps policier et a rappelé ses efforts de transformation. Un plan stratégique prévoit notamment des efforts pour mettre fin au racisme systémique au sein du service.
De la formation.
On mise notamment sur la formation et la sensibilisation des agents.
C'est Marie-Ève qui va donner les formations.
Je me répète un peu ce soir, mais écoutez, c'est ça. On est dans la même boîte. Des leaders autochtones du nord de l'Ontario estiment que les efforts de transformation du service de police ne mènent nulle part et réclament sa mise sous tutelle ou sa dissolution. Je cite un grand chef, les enquêtes sont menées de manière inadéquate et les autochtones ne sont pas en sécurité dans la ville de Thunder Bay. Donc, la police fait l'objet, Simon, d'enquêtes actuellement. Plusieurs enquêtes de la Commission civile de l'Ontario et la police provinciale de l'Ontario aussi. Donc, c'est vraiment le corps de police...
Faudrait étudier l'histoire de Thunder Bay, genre pourquoi on en est arrivé là. Il y a sûrement un peu de colonialisme.
Ben, il y a quelques mines dans le coin, hein, oui.
Avant d'aller à la conclusion de l'émission, un projet artistique intéressant qu'on peut voir un peu partout à Montréal, ça s'appelle Indigenous Forced Displacement. C'est dans le cadre du projet Inside Out. En fait, c'est des magnifiques portraits en noir et blanc de personnes autochtones, des personnes marginalisées, des gens ordinaires, des gens qui ont réussi, mais on voulait montrer un côté lumineux des communautés autochtones, hein, après ce que tu viens de nous raconter.
Ben oui.
Parce qu'on juge que dans l'actualité, on voit surtout de la misère ou de la souffrance. C'est une initiative du photographe et artiste de rue J.R. et c'est chapeauté par le foyer pour femmes autochtones de Montréal. On peut voir les portraits sur les murs de l'école Mind dans le Mile-End, sur Saint-Urbain, près de Mont-Royal.
L'école quoi?
Mind.
M-I-N-D.
Okay. M-I-N-D. Au bâtiment 7, dans Pointe-Saint-Charles, d'autres adresses en vrac, le 633 Beaumont, 5795 de Gaspé, 7010 Henri-Julien. J'espère que vous avez tout noté.
Ben oui, à Montréal, hein?
Oui, tout à Montréal. Pour plus d'infos, je rappelle le nom du projet, Indigenous Forced Displacement. On se retrouve dans un tout petit instant pour la conclusion des Apatrides Anonymes, l'émission du 7 avril 2022 sur choc.ca. On vous laisse avec un nouveau type de capsule, la nouvelle n'importe quoi du jour. On s'en va à l'aéroport de Memphis, qui a un programme pour installer dans les aérogares des œuvres d'artistes locaux de la relève. Il y avait une photo d'un personnificateur d'Elvis asiatique qui avait été exposé à l'aéroport. Il y a eu un gros backlash, les réseaux sociaux se sont enflammés, il y a eu des plaintes et l'organisme en charge a décidé de retirer l'œuvre d'art. Deuxième backlash, là, c'est les associations d'artistes, des amateurs d'art visuel, l'artiste lui-même. Ça, sont plaints du retrait de la photo et au grand déplaisir des associations locales des gens pas de couleur. Elle a été réinstallée avec excuse à l'artiste qui s'appelle d'ailleurs Tommy K, K-H-A. On le salue.
On le salue.
L'aéroport, de son côté, entend réévaluer la gestion des plaintes et peut-être mieux expliquer les démarches des artistes qu'elle expose. Peut-être rappeler, préciser que des personnificateurs d'Elvis depuis 75 ans, il y en a de toutes les origines. Il y en a même des Noirs.
Puis des Polonais.
Ah, peut-être. J'en connais pas personnellement. Bon, ben voilà, on vous laisse nos coordonnées. Notre page dans choc.ca où on peut écouter nos podcasts en direct ou en rattrapage. Radio Victoria 107.9 FM, radiovictoria.ca. Notre site web apatridesanonymes.info. On a une page
FB.
Bravo. Et notre courriel apatridesanonymes à resist.ca. J'étais en compagnie de Marie-Ève et Mathieu.
Ben oui. Merci Simon pour ton animation.
Nous étions en compagnie de Simon.
Merci Simon.
Oui, Simon est toujours avec vous pour quelques secondes encore.
Bonne émission, bien menée.
On est probablement là dans deux semaines.
Mais non.
Non, on n'est pas là.
On ne sait pas. C'est une surprise.
Bon, peut-être le 21 avril, sinon début mai, on sera avec vous.
C'est sûr qu'on est là, oui.
On va se laisser en musique, comme toujours, avec un artiste de Rimouski qui est sur Coup de Shabata Records, Éric Normand, de son EP Hommage à Natalika. Je ne sais pas qui est cette Natalika. C'est paru en décembre dernier. On écoute la pièce Robin des Hautbois, qui est décrite comme une fable médiévale en collaboration avec La Fièvre, Bernard Falaise, Jordi Allais, Alexander McSween, Philippe Lozier et Tahiré Nourani. C'était les Apatrides Anonymes sur choc.ca, édition du 7 avril 2022. On se laisse avec c'est Éric Normand.
De Rimouski.
De Rimouski, vous êtes
Bonne
sur choc.
Soirée.
Bonne soirée, tout le monde, à bientôt. Bye bye.
C'était un roi dont ne sait d'où, pas particulièrement danois, mais qui commande chaque royaume avec quelque chose de pourri et qui souhaitait que de sa contrée naisse la plus belle des musiques, que le voyageur attiré n'eut d'autre choix que d'arrêter. Et les enfants qui jouent du banjo et les sifflements.
souhaité brûler. Et quand on passe par le boisé, celui qui longe la rivière, on entend rôder un voleur et vader des viols du Seigneur.
Tu veux que la cime des armes dans le seul boisé.